Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. Nous sommes en direct jusqu'à 16h30. Un grand merci à ceux qui nous écoutent dans les pavillons, à la buvette du MQC et à nos auditeurs de Namur, d'Aix-en-Provence et de partout ailleurs. Et oui, notre émission voyage bien au-delà des ondes suisses. Autour de la table aujourd'hui, nos participants du jour, aujourd'hui, on a, franchement, ça fait plaisir de voir une table aussi bien garnie, on pourrait dire. On a Isaline, une habituée, on a Seb, on a Sabir, on a Saphir, pardon, on a Rebecca, on a Johanna, on a Omar, on a Céline, on a Rachel, on a Elvio.
Bonjour Jimmy.
Et on a Pascal Vigolo à la technique, que je remercie déjà. Au programme cet après-midi, nos chroniques phares, les rencontres de Marie-Claude et la reprise tant attendue, la minute d'Elvio. On passera aussi par un petit interview de Romaine, une artiste, une musicienne, une chanteuse qui reprend les standards de Françoise Hardy. Je ne vous spoil pas trop, on écoutera tout à l'heure son échange. Et puis on avancera gentiment comme ça tout au long de l'émission. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par notre émission, émission que vous retrouverez dans son intégralité et en rediffusion sur notre site pavillonnomade.ch. Et n'oubliez pas de nous suivre également sur notre site Instagram et de faire tourner. D'ailleurs, j'avais quand même envie de remercier un ami très cher, Lionel Plessis. Lionel, peut-être que tu nous écoutes, mais si tu ne nous écoutes pas, je sais que tu auras la rediffusion. Un grand merci pour ton soutien pour Pavillon Nomade, parce que Radio Associative, elle ne se fait malheureusement pas gratuitement. Donc, tous ceux qui auraient envie de faire un petit don, il n'y a pas de se dire on doit donner des milliers de francs. Toute aide est bienvenue. Il suffit simplement de prendre contact avec le quartier culturel et puis de voir avec eux comment c'est possible de soutenir notre projet qui est là depuis déjà en vie depuis quelques années. Passons à notre premier thème du jour. Bonjour Saphir.
Bonjour.
Bonjour Johanna. Alors Johanna, on va vous laisser prendre aussi un micro parce que si j'ai bien compris, vous nous avez préparé aujourd'hui un thème tous les deux qui, on pourrait dire, le nom l'anxiété d'une manière générale. Mais déjà, merci d'avoir pris le temps de préparer et surtout, qu'est-ce qui fait
qu'aujourd'hui... Avec plaisir.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez envie de nous proposer ça ?
Alors, il faut expliquer que c'est un thème qui pourrait ressembler, en tout cas, être assimilé à beaucoup de personnes qui vivent ça. Et puis, Johanna, c'est vrai que ce matin, on a pu travailler là-dessus et puis qu'on a pu avoir plein de similitudes. Donc, on a trouvé intéressant de pouvoir vous partager ça, de ce qu'on a préparé un petit peu dans ces anxiétés, que ce soit l'anxiété sociale ou que ce soit le monde aussi qui est anxiogène. On a des sensibilités différentes, chacun les unes des autres. Et c'est vrai que par rapport aux fausses idées concernant les unités, par exemple, de soins, ou que ce soit les soignants, que c'est les idées un peu préconçues, je trouve que c'est bien de pouvoir en parler et puis d'échanger avec d'autres personnes qui ressentent ce genre d'anxiété, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes anxiétés, on n'est pas tous atteints par les mêmes anxiétés non plus. Donc
on n'est pas tous logés à la même enseigne.
Voilà, exactement.
Justement, je voulais parler aussi de différents types d'anxiété, entre guillemets, parce que, comme disait Saphir, c'est un petit peu propre à chacun. Et parfois, on peut ressentir, par exemple, du jugement face aux autres. Que ce soit par la parole ou par les regards.
Des peurs. On avait pu regarder aussi qu'il y avait des peurs par certaines choses qu'on pourrait dire qui ne seraient pas appropriées dans une discussion, qui nous feraient sentir être à l'écart, et puis qui nous mènerait à avoir une espèce de honte, c'est un peu ça.
Oui, une honte qui pourrait nous amener après à s'isoler encore plus, parce qu'on a peur on a une certaine peur de parler aux gens, et on se sent comme si je vais parler naturellement, comme si quand on parle, ça paraît bizarre, ça paraît un petit peu... inapproprié, quoi, comme on disait avant, ouais.
C'est un changement de perception. Moi, j'ai relié ça aussi à une gêne sociale. Donc, cette gêne sociale qui peut être lié aussi, je dirais, à l'hyper-empathie, c'est ben, d'avoir, qui pourrait créer des mauvaises influences, avoir un sentiment de vulnérabilité, de naïveté aussi, de se sentir un peu impuissant dans certaines situations.
On a déjà un panel très lisible de finalement ce que l'anxiété, ce symptôme, ce pronom peut générer comme problématique différente. Mais c'est quoi l'anxiété? Déjà, ça se manifeste comment d'un point de vue physiologique? Comment autour de la table, vous, quand on vous dit le terme anxiété, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Et surtout, comment ça se manifeste en vous, Omar?
Bonjour. Alors déjà, l'anxiété, ça peut, c'est une paralysie un petit peu du corps. C'est une respiration qui devient difficile. C'est des sueurs. C'est vraiment quelque chose qui vous déconnecte de la réalité sur un moment très très court, qui peut revenir en arrière grâce à un médicament. Mais c'est paralysant, ça vous paralyse dans votre chambre, ça vous empêche de sortir de votre chambre, de vous sociabiliser avec les gens, et on n'arrive pas à avancer, tout simplement. Malheureusement, les médications qu'on a aujourd'hui, heureusement, les médications qu'on a aujourd'hui sont bien et permettent d'aller de l'avant, mais ça provoque une certaine dépendance. C'est un peu ça le problème, quoi.
Alors, on pourra revenir sur les finalement comment on arrive à gérer cette anxiété, que ce soit avec la médication ou sans. Est-ce que d'autres personnes ont envie de témoigner sur finalement comment ils vivent, eux, comment ça se déclenche en eux, comment ça démarre ou comment ils le vivent? Alors, on va faire tourner. Seb, on va vous donner le micro. Vous étiez le premier à lever la main. Alors, on a eu un hochement de tête, mais vous avez respecté la règle, c'est vrai. Quoi. Alors, après, on donnera la parole à Isaline.
Ouais, moi, je voulais parler de l'anxiété parce que j'y suis sujet. Et puis, je trouve qu'il y a différents degrés où des fois, on sent monter l'anxiété. Et puis, je trouve qu'il y a un stade vraiment qui est plus que l'anxiété, c'est la crise d'angoisse. Et là, on est vraiment paralysé. Et là, puis les gens sont toujours de bons conseils. Va marcher, respire, fais ci, fais ça. Mais en fait, là, c'est une paralysie totale. C'est plus possible de réfléchir, en fait. C'est la crise d'angoisse, elle est... Voilà, enfin, on se sent vide, on se sent seul, perdu.
Donc, vous êtes en train de nous dire que si, quand vous avez quelque chose qui se manifeste en vous, qui va générer de l'anxiété, si vous n'arrivez pas à la couper, à la diminuer, à la stopper, là, la courbe va augmenter et vous allez passer à une étape qui va être de l'angoisse et qui fait qu'à ce moment-là, ça va être plus difficile de redescendre.
Exactement.
Ouais. Ouais, donc, c'est intéressant de savoir déjà qu'il y a un processus, hein, on va en parler comme ça, et qu'on peut agir dessus. Mais,
Et puis, une crise d'angoisse, elle peut venir avant l'anxiété, en fait, oui. Suite à un événement. Tout d'un coup, un simple événement fait qu'on passe pas du tout par l'anxiété, mais directement par la crise d'angoisse. Et puis là, c'est plus gérable, en fait, sur le moment même. Et c'est là qu'on peut faire n'importe quoi ou être complètement incohérent et paralysé, quoi.
Eh ben merci. Voilà. On va, Isaline, avant de peut-être revenir sur comment on peut gérer ça et quels seraient les petits tips que vous pouvez vous donner entre vous et à nos auditeurs, hein, parce qu'on a des gens qui nous écoutent. Hein, Albert Jacquard, astrophysicien, disait « personne n'est égaux », c'est-à-dire qu'on va vivre tous différemment l'anxiété, mais par contre, on a peut-être des tips qui peuvent fonctionner pour les autres. Donc on ira après. Isaline.
Pour les tips.
Alors non, pas pour les tips. Pour non. Vous, quand on parle d'anxiété, comment quand ça se manifeste, comment ça?
Pour moi, c'est comme un ralentissement, un autofocus sur tous nos sens, comme si on entendait nos battements de cœur dans les oreilles, que tout était devenu autocentré, que le temps ralentissait et que la réalité, entre guillemets, extérieure, n'existait plus vraiment, car c'est plus quelque chose qui se joue mentalement et dans les sens, les ressentis, les sensations, tout ça.
Eh ben merci. Johanna, vous aviez aussi envie d'échanger un petit peu autour de ce... Ben vous nous avez proposé ce thème, mais comment ça se manifeste chez vous, si vous êtes d'accord, hein, d'échanger l'anxiété?
Alors oui, chez moi, c'est vrai que l'anxiété, ça peut aussi être se manifester par des symptômes physiques, mal au dos, des douleurs, mal à la tête... Il y a aussi comme si ma gorge était toute serrée, du mal à respirer, des oppressions aussi au niveau de la poitrine. Et c'est vrai que je voulais rebondir aussi sur ce que Seb a dit par rapport aux crises d'angoisse. Ça peut être vraiment violent. Et j'ai déjà vécu une crise d'angoisse où j'avais l'impression que je pouvais mourir. presque. Ouais. Donc, ça peut aller très loin. L'anxiété, c'est quelque chose de très fort. Ouais.
Ça peut aller très loin, même des fois de manière très dramatique. Hein. On sait qu'on parlait d'angoisse, on parle des fois d'angoisse psychotique. On sait des fois qu'on peut arriver pour stopper cette douleur intense. Bah, des fois, on a des réactions qui sont disproportionnées, qui peuvent nous mettre en danger. Rachel, vous aviez envie de rebondir.
Oui, alors moi, je voulais rebondir. Il y a des attaques de panique aussi. C'est une surcharge émotionnelle qui fait qu'on a accumulé beaucoup de choses durant ces dernières années. Et en fait, le système nerveux se défend à sa façon. Et en fait, l'attaque de panique, c'est quelque chose, souvent, les gens ne comprennent pas. C'est quelque chose qui vient de subitement, d'un seul coup. Vous n'arrivez plus à respirer. La gorge se serre, palpitations cardiaques. Comme vous manquez d'oxygène, vous commencez à avoir les fourmillements dans les mains, dans les pieds. Et puis après, vous croyez que vous allez mourir, en fait. Vous croyez que vous allez mourir. Voilà.
Mais c'est vrai, quand on parle de symptômes de l'anxiété, on a deux, c'est physique et psychique. En physique, on parle de palpitations, transpiration, vertige, essoufflement, douleur thoracique, trouble du sommeil, tension musculaire. Et psychique, inquiétude constante, peur de perdre le contrôle, anticipation négative, difficulté de concentration, on a tout ça. Donc, oui, allez-y, Sophie.
Alors, c'était pour dire aussi que personnellement, c'est ce qui est cette gêne sociale aussi qui peut être due à ces anxiétés, fait beaucoup de mal autour de soi, parce que nous-mêmes on ne sait pas comment gérer ça et notre entourage veut essayer de nous aider mais ne peut pas. Il y a vraiment que les médicaments qui puissent faire quelque chose, et puis le temps, et laisser passer le temps, et aussi d'autres activités par rapport à ça.
Alors je vois que autour de la table il y a les têtes qui hochent, mais je pense que ça va être pour la même peut-être. Question que je vais poser, parce que vous dites qu'il n'y a que les médicaments. Mais finalement, alors bien sûr, les médicaments vont aider, mais ce qui serait intéressant peut-être de se dire, et si on n'a pas de réserve sur soi, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, hein, une anxiété phobique ou quelque chose qui déclenche, qu'est-ce qui peut permettre de descendre ce seuil qui évite d'aller jusqu'à peut-être l'angoisse, ou qui permet au-delà de la médication? Rachel.
Déjà de se défocaliser. Et puis moi, je pense qu'il y a une pratique qui est bien, qui n'est pas médicamenteuse à le pratiquer, c'est la cohérence cardiaque. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on n'arrive plus à respirer. Donc, voilà.
Alors, garde un petit peu le micro quelques secondes, parce que peut-être autour de la table, il y a des initiés qui connaissent ce que ça veut dire cohérence cardiaque. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui disent, mais c'est quoi cette cohérence cardiaque? Alors bien sûr qu'on peut aller sur Internet et trouver les sujets, mais c'est quoi la cohérence cardiaque? Quand vous dites, on peut utiliser la cohérence cardiaque, c'est comment?
Alors en fait, il y a des applications maintenant que vous pouvez trouver sur, à télécharger sur votre Natel, et puis vous avez une boule à suivre qui vous montre inspirer et qui redescend et expirer. Et puis, en fait, il faut le faire 5 minutes au moment de la crise. Et déjà, ça fait énormément du bien. Parce qu'en fait, il y a un problème de mécanisme à l'intérieur de nous. Donc, la respiration se ralentit. Du coup, ça enlève une partie de l'angoisse. Et puis, se défocaliser, c'est-à-dire essayer de penser à autre chose. Genre aller voir quelqu'un, je sais pas, faire de la musique, d'aller de se dire on va courir. Il y a plein de solutions alternatives en fait, que je pense que qui sont bénéfiques au-delà des médicaments, parce que pour moi je pense que les médicaments, ça doit rester une béquille.
Ben merci, en tout cas on a déjà pas mal de pistes. Seb.
Oui, alors il y a plein de techniques qui existent. Moi, je trouve qu'elles fonctionnent quand on est dans un état plutôt positif et puis qu'on se dit là, ça va marcher, je vais me calmer, je respire. Et quand on est dans un, enfin voilà, moi je suis sujet à ça, donc quelque chose de plus négatif. Alors ça va pas être un médicament, ça va être quelque chose de extrêmement, qui te fait descendre l'angoisse tout de suite. En tout cas chez moi, parce que j'en souffre, c'est d'aller boire de l'alcool. Et ça, c'est 3 fois pire, parce qu'après. Ça, sur le moment, ça baisse instantanément. On passe après à la tristesse, à la colère, à d'autres états. Mais une fois que l'effet de l'alcool est tombé, l'angoisse remonte de plus belle et ce n'est pas une solution. Mais quand on est dans le négatif, moi, pour ma personne, je vais me réfugier dans l'alcool. Par contre, si je suis devenu positif, puis je me dis, ah tiens, j'ai une crise d'angoisse, je vais aller faire du sport, je vais aller courir, je vais réussir à le faire. Mais des fois, on n'y arrive pas.
Bah, des fois, on n'y arrive pas. C'est un peu ce processus, ce mécanisme de fonctionnement qui fait qu'à un moment, on va aller vers ce qu'on a l'habitude et que on sait que notre corps, il fonctionne. Pour certains, ça va être. On voit des gens aussi qui, malheureusement, se scarifient parce qu'on sait que la douleur elle-même fait qu'on va baisser. Alors, bien sûr, on aimerait que les gens puissent avoir d'autres techniques. L'alcool est un, malheureusement, un très bon anxiolytique. Alors, je modère mes propos dans le sens où il va agir de cette manière-là. Hein. Les molécules des anxiolytiques et de l'alcool, elles ne sont pas si différentes que ça et ça raccroche au niveau neuronal de la même manière. Mais il y a tout l'aspect dépréciogène de l'alcool qui fait qu'après, bah voilà, on est dans une espèce de cercle vicieux. Donc, dans l'idéal, on devrait pouvoir recourir autrement. Mais des fois, effectivement, on a sur le moment, l'impulsivité fait qu'on doit travailler, apprendre à connaître son corps, son mécanisme de fonctionnement, qu'est-ce qui va générer. On parlait de tremblements, on parlait de sudation. Le corps vous donne des petits signaux sur lesquels on dit si on attend d'agir, bah, au bout d'un moment, on va dépasser cette courbe, on ne pourra plus agir. Ou là, peut-être même la médication ne pourra peut-être plus avoir d'effet, mais l'idée, c'est de, quand même de connaître son fonctionnement pour essayer d'agir en amont. Mais ce n'est pas tout le temps facile, je reconnais. Omar.
Alors, Jimmy, vous avez dit de scarification. Moi, je vais parler d'une expérience personnelle qui m'a assez choqué par rapport à ma réaction personnelle. Ça a été que dans un moment d'angoisse extrême où je devais faire sortir l'angoisse, je me suis planté un coup de couteau dans le bras. Ça a été brusque, soudain, absolument pas douloureux sur le plan physique. Et d'un coup, c'est comme si on a un ballon qui se dégonfle et on se sent bien. Et ça, ça a été vraiment un déclic en me disant, là, ça va trop loin, c'est dangereux, je mets ma vie en danger et on doit trouver des solutions pour ne plus que ça arrive.
Alors, si vous, comme Omar, pour ceux qui nous écoutent, à un moment où vous sentez que vous êtes moins bien, que vous avez comme ça de l'impulsivité ou des tendances à peut-être à agir de manière disproportionnée ou à travers l'automédication, que ce soit à travers les stupéfiants ou autre, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas rester seul, de pouvoir en parler directement à quelqu'un. Vous trouverez hein, sur tous les sites de la santé publique des téléphones qui vous aiguilleront vers des personnes spécialisées. On va prendre un dernier échange avant qu'on passe gentiment à la suite de notre programme.
Je voulais juste dire, comme vous disiez, Jimmy, appelez, si au pire vous appelez le 144, si vraiment ça ne va plus du tout, vous êtes perdu, vous n'arrivez plus à trouver un numéro de téléphone à quelqu'un, appelez, vous prenez votre téléphone, vous appelez le 144 et je pense qu'eux aussi ils peuvent vous aider en envoyant quelqu'un, en vous envoyant vers l'autre numéro de téléphone qui peut vous aider. Il ne faut pas hésiter à le faire.
Eh ben, je trouve que c'est très bien de rappeler ça. Saphir, dernier mot avant qu'on passe à la suite.
Oui, aussi dire qu'il y a des programmes qui aident à gérer les plans de crise, les plans de déprime, et puis qu'on peut le faire aussi par soi-même avant qu'on arrive à cette anxiété ou cette déprime haute.
Vous faites appel à ce qu'on appelle au PCC, en plan de crise conjoint, un outil très important qui vient renforcer tout ce travail qui est fait en collaboration avec vous-même, vos proches, les thérapeutes, oui. Et puis qui vous permet finalement d'apprendre à connaître votre fonctionnement et d'essayer de les adapter ou de les changer. Exactement. On a parlé tout à l'heure, Rachel, vous aviez dit de défocaliser, vous aviez parlé de la musique. C'est vrai, la musique permet, et toutes les musiques peuvent, à un moment ou l'autre, comme certaines musiques peuvent nous amplifier dans un état de bon, d'autres nous tirent vers le bas, et on a tendance à dire que le blues est une musique un petit peu anxieuse qui tire, mais non, le blues, c'est certainement une musique de l'âme. Au contraire, c'est pour ça que je vous propose qu'on se retrouve dans un court instant après cette magnifique chanson de Ry Cooder qui s'intitule Dark End of the Street. On the Street. Désolé pour mon anglais. Thank you. De retour sur les ondes de Pavillon Nomade après ce magnifique morceau de Ryde Cooder, Dark End of the Street, cette fois-ci j'ai réussi à le dire. On retrouve les rencontres de Marie-Claude. Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévo. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Éric Giraudet. Éric est un infirmier ici à Malévo. C'est en 2002 qu'il a découvert l'hôpital, mais ce n'est que plus tard qu'il pousse la porte des lauriers. Écoutons-le évoquer comment l'hôpital et les soins ont évolué au cours de ces années.
Les rencontres de Marie-Claude.
À l'époque, il y avait quand même, un petit peu moins d'intensité. Il y avait moins cette espèce de submersion qu'on ressent aujourd'hui. On avait ça parfois, mais c'était moins fréquent. Donc là, déjà en termes d'intensité de travail, en termes aussi d'état de la société, puisque les hôpitaux psychiatriques sont pour moi un reflet, vraiment le miroir de la société. C'est un microcosme, mais c'est un reflet vraiment de la société. C'est-à-dire que je pense que quand dans le milieu psychiatrique ça va mal, je pense que la société va mal. Alors, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes en janvier 2022. Mais c'était aussi différent. C'était à la fois identique et différent. Donc, ce qui était identique, c'est l'état d'esprit de l'institution. C'est la priorité à la personne soignée, donc la priorité aux patientes et patients. Cette attention profonde aussi, hein, c'est là où il y a une grosse différence entre les hôpitaux fermés et l'hôpital de Malévo, qui est un hôpital ouvert. Il y en a très peu en Europe, hein, des hôpitaux ouverts en psychiatrie. Et après, donc, les expériences d'hôpitaux fermés, c'est vrai que revenir en hôpital ouvert, c'était vraiment quelque chose d'important. Les prises en charge avaient un peu changé parce qu'il fallait aller plus vite. Il y avait plus de protocoles aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que quand j'ai travaillé en 2002 et 2006, c'était une psychiatrie assez... Et l'hôpital de Malévo, c'est un hôpital assez familial. Et comme ça, un peu de grand-papa quand même, parce que... Et grand-maman, parce que... Bah déjà, le directeur à l'époque, c'était le docteur Caron. On le voyait très régulièrement dans toutes les unités. Il faisait aussi... régulièrement des entretiens avec des patients difficiles. Il était énormément soutenant envers les équipes infirmières. Alors, je ne dis pas que les directeurs actuels ne le sont pas, hein, mais ce n'était pas du tout la même approche. Il y avait vraiment ce côté paternel, comme ça, qui était bienveillant. Ce n'était pas du paternalisme, c'était paternel. Très bienveillant, très soutenant. Voilà, il y avait un peu plus d'interaction transhiérarchique, c'était un peu plus horizontal. Il y avait des groupes de sport où tout le monde jouait contre tout le monde. Il y a un moment dont je me souviendrai toute ma vie où on jouait au badminton et je joue contre Marie-Christine Rowe qui était ICS à l'époque, qui était un peu connue pour un côté très, très rêche comme ça, mais très correct. Et à un moment, je lui envoie le volant dans la figure. Et là, j'étais tout embarrassé. Elle me fait « Mais Eric, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. » Donc voilà. Donc il y avait vraiment ce côté un peu plus horizontal. Après, je pense que c'est aussi évidemment la société qui a fait changer ça. Et puis l'évolution des soins, hein, des soins en psychiatrie. Vraisemblablement, on ne pouvait pas continuer comme c'était avant. Donc voilà, il y avait un besoin de changement. Et puis ça s'est fait. Et puis moi, il y a toutes ces 20... pas 20 ans, puisque je suis quitté en 2006, donc 16 ans d'absence où ça a évolué progressivement vers ce que j'ai redécouvert en janvier 2022. En début des années 2000, chaque personne qui rentrait à l'hôpital de Malévo passait par la chemise de l'hôpital pendant 3 jours. Aujourd'hui, c'est un outil qui est décrié, surtout par la commission de la torture. Ça devient compliqué maintenant de prescrire la chemise d'hôpital pour une personne hospitalisée. Et pourtant, ça serait plus souvent nécessaire que ce qu'on l'utilise.
Pourquoi ?
Alors, il y a une première raison, c'est que même si c'est de la psychiatrie, c'est un hôpital. Donc, marquer le fait d'être en soins à travers la chemise, ça peut faciliter pour certaines personnes. Et puis, on le voit dans certains cadres et prises en charge, on passe encore par la chemise et ça a un excellent effet. Ça permet à la fois pour la personne, mais peut-être pas trop parce qu'elle ne voit pas forcément tout ce qui se passe à ce moment-là, de par son état mental, mais pour les soignants d'avoir un peu plus d'attention pour la personne soignée, de se rappeler qu'elle est fragile à ce moment-là, de se rappeler qu'on doit être plus vigilant, qu'on doit être plus présent et qu'on doit faire les choses correctement. Pour comparer, dans un hôpital fermé, ben, la personne va être en chemise dans la chambre fermée. On enfermait les gens par décision, hein. Il y avait quand même un colloque interdisciplinaire, une décision médicale. Ça nécessitait parfois. Mais ensuite, on allait voir les personnes une fois toutes les heures. Et puis c'était juste un regard par le hublot. Et puis il y avait des horaires où on rentrait à plusieurs pour faire les soins ou administrer les traitements. Ici, il n'y a pas ça. Les personnes qui font fonction de mur, c'est les infirmiers et les infirmières. Et nous sommes la contention géographique et physique, parfois, des personnes qui sont en difficulté. Donc c'est vraiment très différent. C'est déjà beaucoup plus humain. Alors certains vont décrier ça et puis dire que parfois ça va mettre plus longtemps. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça mette plus longtemps parce que j'ai vu dans les hôpitaux fermés des personnes bipolaires qui restaient très longtemps en chambre fermée. Hein. Donc parfois plus de 2 mois. Hein. Et on le voit ici aussi. Parfois, les personnes bipolaires, on doit les accompagner pendant très longtemps avant qu'elles puissent redescendre. Mais vraiment, ce côté, c'est humain, en fait. Au lieu que ce soit une porte et des murs, et un hublot, c'est des êtres humains qui sont là, qui sont en face de la personne, qui l'accompagnent au quotidien, parfois la soutiennent. Parce que, ben, évidemment, quand les personnes sont un peu sédatées, elles ont parfois aussi des difficultés à marcher, puis la sédation, elle est nécessaire, hein. Imaginez quelqu'un qui ne dort pas pendant des jours et des jours et des jours, qu'à un moment donné, la chimie doit intervenir, parce qu'il y a un véritable danger pour la personne qui est dans cet état. À la fois la mise en danger par l'hyperactivité et à la fois par le manque de sommeil. On sait qu'au bout de 11 jours, une personne qui ne dort pas du tout, elle meurt. Voilà. Donc l'hôpital de Malévo a gardé quand même son essence.
Accompagner au quotidien, soutenir lorsqu'on vacille, tel est le travail d'Éric Giraudet qui est infirmier ici à Malévo. On va le retrouver jeudi prochain au micro de Marie-Claude Cudry. À l'issue du dernier épisode, vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre sur le site pavillonnomade.ch. Il est exactement, presque à une minute près, 16h. 16h, le temps d'aborder ce joli thème qui est sur la solidarité. Rachel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez décidé de nous proposer ce deuxième thème aujourd'hui sur la solidarité. Comment vous est venue l'envie d'en parler et aussi qu'est-ce que vous sous-entendez et solidarité, solidaire, qu'est-ce que c'est?
En fait, je trouve qu'on est devenu un pays individualiste, chez chacun pour soi. Et comme dit un dicton africain déjà, pour élever un enfant, il faut tout un village. Donc, en fait, moi, je trouve que aussi le Natel, enfin, la technologie, enfin, nous sépare, quoi. Et en fait, on devrait... Plus personne se parle, plus personne se regarde. Et c'est triste. Pourtant, on devrait s'aider. On pourrait venir sonner chez la voisine. S'il y a un problème, dans la rue, on pourrait recommencer comme à l'époque, se parler entre nous. Mais plus personne se parle.
Alors, c'est bien, on sent la rage de cœur qu'elle a, mais j'aimerais dire autour de la table, est-ce que réellement, aujourd'hui, notre société n'est plus si solidaire que ça? Alors, Omar.
Alors, moi, j'ai aussi le même sentiment que Rachel. On n'est plus aussi solidaire qu'avant. Maintenant, on ferme facilement nos portes devant la personne d'étranger qui arrive et qu'on lui donne tout simplement plus la possibilité de s'exprimer. Simplement faire rentrer quelqu'un chez soi d'une manière physique ou psychologique, je veux dire, dans la discussion, ou même l'inviter à manger et lui dire qu'est-ce qui se passe, voilà, je t'offre un lit pour 2-3 jours, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Aujourd'hui, on est dans la crainte de son prochain. On a peur du prochain. Et c'est une chose que je comprends. Parce qu'on parlait de technologie, Internet est devenu quelque chose de chaotique, de merveilleusement chaotique, mais de chaotique, où tout le monde s'invite à n'importe quoi. Et c'est un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, ça contribue à une solidarité qui explose dans le sens négatif.
Ben merci. Alors, on a Saphir qui a envie de rebondir.
Sans parler, je rebondis sur ce que disait Omar. Je trouve que de plus en plus, même au niveau intergénérationnel, il a plu. Par exemple, moi j'ai une dame d'un certain âge qui la dernière fois m'a dit, elle passait à côté d'enfants simplement pour leur dire bonjour, et avec leur casque ils n'entendaient même plus, et puis et elle manquait de se faire rouler dessus en trottinette. Donc c'est vrai que c'est dommage, je trouve, ce côté solidarité intergénérationnelle qui se perd quand même, ou qui se modifie.
Ben merci de votre témoignage, Isaline. Et après, on donnera la parole à Seb.
Heureusement, comme on l'a dit plus tôt, on retrouve ces reflets de société dans Mal et vous-même, et qu'on retrouve beaucoup quand même de solidarité, d'entraide. On apprend à réouvrir les yeux sur la souffrance des autres et pas juste à l'éviter, à s'offrir même des minuscules petits cadeaux, un petit sourire, un clin d'œil, un petit surnom affectueux, quelle que soit la chose. Des fois, c'est vraiment au bon moment pour la bonne personne et ça pourrait suffire à réouvrir un peu le monde sur les autres, sur la solidarité tout court en général. Il existe encore des sociétés où on s'entraide, il existe encore des villages, peut-être à plus petite échelle, pas forcément mondiale encore pour l'instant, mais à force, ça devrait pouvoir se propager quand même.
Mais vous avez raison de dire finalement... quand on parle de société, la société, c'est nous. Hein. On dit que l'hôpital, c'est un peu représentatif de la société. La société, c'est nous, autour de la table ici. C'est nous-mêmes qui faisons qu'on change les choses. Qui se sent solidaire ici ? Parce que vous êtes de dire, il n'y a plus de solidarité, mais qui se sent solidaire ici et pourquoi ? Et en quoi ? Alors, on va donner la parole à Seb.
Solidaire, rien qu'en partageant des discussions avec d'autres patients qui sont là pour d'autres pathologies, on ne connaît pas leur vie, de discuter, de peut-être pouvoir apporter quelque chose. Parce que moi aussi, je comprends, on parlait des angoisses avant. Quelqu'un qui me dit, j'ai des crises d'angoisse, j'ai des angoisses. Ah, moi, j'en ai aussi, comment tu fais ? Enfin, voilà, ça, c'est de la solidarité. Et puis, je n'ai pas l'impression de voir dans les pavillons, en fait... dans les lieux, en tout cas, où il y a du monde, tout le monde sur son téléphone, mais plutôt, je retrouve des jeux de société, ce que je ne fais pas à la maison, des discussions tout d'un coup qui partent pendant 10-15 minutes sur un sujet intéressant, et ça fait partie, justement, de ne pas couper sur son téléphone et de partager quelque chose avec l'autre.
Mmh. Omar ?
Il y a une chose qui m'a étonné, donc Isaline, tu disais dans les pavillons et que vous donniez des surnoms, des choses comme ça. Et moi, j'ai été étonné de voir des patients qui se prenaient dans les bras. Tout simplement, se prenaient dans les bras et ils passaient 30 secondes à se faire un câlin en toute amitié, en toute gentillesse. Ça m'a étonné positivement et je trouve ça, c'est un moyen de solidarité aussi. Voilà.
C'est vrai, la solidarité, elle commence déjà à l'attention à l'autre. Hein. J'en discutais hier soir avec mes enfants parce qu'on parlait un petit peu des réseaux sociaux qui ont enlevé cette solidarité. Finalement, on retrouve sur certains sites en Europe, mais même en France, des applications où on peut s'aider et s'entraider avec des échanges de compétences. J'ai vu qu'il y avait des applications où des seniors se proposent d'aller promener les chiens. On a des applications pour aider à faire la tondeuse. J'ai des gens qui ont trouvé des tout petits boulots comme ça. Donc, finalement, je peux comprendre qu'il y ait cette crainte de manque de solidarité parce qu'on est dans une société qui se veut ou peut-être on veut nous faire croire qu'être de plus en plus individualiste. J'ai un petit doute quand je vois l'échange d'aujourd'hui et quand je vois effectivement ce qui se passe là et à l'extérieur. Et il y avait un super film, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle en anglais Give the Next ou Un monde meilleur, où un prof d'école avait demandé aux enfants de dire finalement comment vous pourriez améliorer ce monde-là pour faire que les choses aillent mieux. Puis chaque élève avait présenter son concept. Et il y a ce jeune, d'ailleurs, je crois que c'est celui qui jouait le sixième sens, qui vient avec quelque chose de très simple. Il dit, moi, mon concept, c'est, et il le dessine au tableau, hein, il dit, je vais voir quelqu'un dans la rue qui est dans le besoin, je vais aller l'aider, et en contrepartie, je vais lui demander, pour cette aide que je lui ai donnée, d'aller proposer ça à 3 autres personnes et de dire la même chose. Et on voit comme ça quelque chose d'exponentiel, finalement, qui fait qu'on a une entraide qui pourrait très facilement se faire. Et je me dis, oui, peut-être tout n'est pas fini, mais quand je vois aussi cette jeunesse, hein, on en parlait, on a reçu des jeunes ici autour de la table, des rappeurs, il y a une solidarité entre eux, il y a une solidarité aussi dans notre société. On voit des fois même dans les journaux, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui refusent. Alors, on parlait de cette fameuse génération génération Z qui refuse de plus en plus les rencontres à travers les réseaux sociaux, mais qui ont envie de voir les gens en direct. Je pense qu'ils ont envie de retrouver ce contact-là. Attention à ce qu'on ne perde pas cette solidarité. Moi, je suis d'accord avec vous, Rachel. On a peur. Faisons attention de ne pas perdre. Safia.
On a beaucoup d'espoir aussi en sachant que, par exemple, moi, je suis arrivé ici pour une problématique avec mon téléphone. Je dois dire que j'ai réussi à le poser pendant plus d'un mois. Et ça fait un énorme bien. Et puis ça donne aussi justement envie de ne pas avoir cet appareil dans la poche uniquement pour moduler le temps libre, quoi. Pouvoir avoir d'autres personnes autour de soi et puis de partager, rien que ça soit par un geste ou un sourire même.
Oui, un sourire, des fois, on peut être solidaire par un regard et un sourire. Elvio.
Alors moi j'aimerais aussi parler de la formation que je vais bientôt terminer, de père praticien en santé mentale, qui est vraiment basée sur la solidarité. En fait, justement, nous sommes, quand on sera diplômé, nous aurons étudié sur le rétablissement et par rapport à notre expérience en souffrance psychiatrique et tout ça. Et ben, du coup, nous, c'est l'accompagnement, c'est rencontrer les gens qui sont actuellement dans cette démarche. Et je trouve que c'est magnifique qu'on crée un métier basé sur cette solidarité-là, justement.
Bah, merci. Johanna.
J'ai pas forcément envie de parler que de négatif, vu qu'on était plutôt sur du positif. Mais des fois, en tout cas pour moi, la solidarité, ça amène aussi des conséquences sur moi qui sont pas forcément faciles à vivre. Parce que moi, je suis un peu comme une éponge. Donc, tous les sentiments des autres, tous les... la colère, la tristesse, etc. Je la prends aussi avec moi. Et du coup, c'est des fois pas facile pour moi d'être solidaire.
Mais vous avez raison. Puis des fois, on a de la peine à mettre des limites. Des fois, on va être solidaire pour pouvoir aider l'autre parce qu'on a envie d'aider l'autre qui est dans le besoin. Et puis, on finit gentiment par s'oublier. Puis après, ça reste quand même au bout d'un moment. Bah oui, il faut être solidaire, mais il y a des limites peut-être aussi. Omar.
La chose, c'est que quand on est solidaire et qu'on aide les gens, à un moment, on aimerait un retour de cette solidarité. Quand on est dans le besoin, dans une attente, et cette solidarité, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas comme on l'aimerait, en tout cas. Et ça nous frustre, ça nous énerve. Et personnellement, moi, je suis encore dans cette frustration et dans cet énervement. C'est pour ça que je suis en train de préparer mon départ de la Suisse. Je ne dis pas où je vais aller, ça va être mieux. Simplement différent et peut-être mieux. Quand même.
Alors, c'est tout le mieux qu'on peut vous souhaiter, Omar. On dit souvent l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais bon, des fois, ça vaut la peine d'aller se confronter à cette autre herbe et puis de se dire finalement, bah oui, finalement, on n'était pas si mal et il n'y aura aucun souci à revenir en arrière. Hein. Les portes ne seront pas fermées pour la Suisse. Hein.
Ah non, je garde mon passeport déjà. Et c'est avoir l'ouverture d'esprit, de voir. Justement, de se dire, l'herbe peut être aussi très bien chez moi, de revenir et dire, ben voilà, c'était juste un passage à un autre endroit pour comprendre quelque chose d'autre et puis de revenir plus fort.
Eh ben, on peut que vous le souhaiter. Isaline, vous aviez envie de rebondir.
Oui, tout à fait. Je me disais que si c'était encore frustrant de donner, peut-être que ça partait du mauvais endroit. Quand on attend vraiment en retour quelque chose, c'est que c'est plus mental que... quelque chose qui provient directement du cœur, comme ces deux personnes que vous avez croisées qui se sont fait un câlin, peut-être même sans se connaître, sans savoir ce que l'autre traverse, mais juste ressentir et arrêter de penser.
Sébastien, merci. Seb, pardon.
Ouais, exactement. Je pense la même chose. Je pense qu'il ne faut rien attendre en retour si on est vraiment solidaire. C'est juste de donner. Et puis, ce que je remarque, où j'ai l'impression, c'est que les gens qui ont le moins, que ce soit dans le monde entier, sont le plus solidaires.
Ouais.
Et les gens qui ont le plus, qui ont des moyens, et j'en fais partie, j'ai pas de problème, je suis peut-être pas assez solidaire, je pourrais peut-être faire plus. Effectivement, mais il y a beaucoup de gens qui ont moins et qui donnent plus, quoi.
Et vous avez raison, c'est ce qui nous a frappé avec mon épouse. On regarde Pékin Express, hein, peut-être les gens ici autour de la table, ce qui nous frappe le plus de tout, depuis toutes ces années qu'on suit cette émission, c'est que c'est dans les lieux effectivement où il y a le moins que les gens sont le moins. Je ne sais pas si aujourd'hui, alors oui, je vais aider un ami dans le besoin, je vais aider quelqu'un qu'on m'a demandé, est-ce que tu pourrais aller le voir ? Oui, mais est-ce que je serais capable aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vient, même s'il y a la caméra, d'ouvrir ma porte et dire voilà, prends mon lit, je vais te faire à manger. Je trouve ça extraordinaire. Mais voilà, ça pourra être peut-être le lieu et le thème d'un prochain débat sur finalement comment on vit cette solidarité, si on devait, qu'est-ce que serait, comment s'entraider, est-ce qu'on accepterait monsieur et madame tout le monde chez nous, peut-être ça sera issu d'un prochain débat. Le temps avance, je vous propose qu'on se retrouve après Hotel California, une chanson magnifique des années, je crois, 70 des Eagles, musique, alors je ne sais pas si s'ils attendaient quelque chose après cette musique, en tout cas ils ont eu un succès énorme. Magnifique chanson des Eagles. D'ailleurs, on était tous en train de se dire, pour ceux qui connaissent la musique ou qui peut-être iront traduire les textes, qu'elle n'était pas si mal posée après le thème qu'on a parlé de solidarité. On se retrouve maintenant, avant notre dernière partie, hein, pour un petit memento interview de Romaine. Nous allons maintenant découvrir la chanteuse et comédienne, actuellement en répétition pour son nouveau spectacle, qui nous a accordé quelques minutes tout à l'heure par téléphone. Un entretien pensé et écrit par Marie-Claude Crudiry et conduit par Pascal Vigolo.
Bonjour Romaine.
Bonjour.
Vous êtes musicienne, chanteuse et mardi et mercredi prochain, on pourra vous applaudir au Théâtre du Crochetant pour un spectacle intitulé « Chère Françoise Hardy ». Ça fait environ 2 ans que ce spectacle tourne sur les scènes de Suisse romande et cette grande dame de la chanson, Françoise Hardy, nous a quittés il y a 2 ans aussi. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce spectacle ?
Alors, ce qui a motivé la création de ce spectacle, chère Françoise Hardy, en fait, c'est un hommage à cette chanteuse, à cette personnalité et à cette femme que j'ai toujours, toujours admirée, qui m'a toujours touchée à chaque fois que je l'entendais dans des interviews ou à la télévision. Je me sentais très proche de ses valeurs, de ses croyances et de la femme qu'elle était. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de me plonger dans son univers. Et c'est vraiment parce que tout ce qu'elle disait me touchait énormément. C'est pour ça que ça m'a motivée de créer ce spectacle.
Qu'est-ce qui vous plaît chez elle ?
Ce qui me plaît chez elle, c'est sa profondeur et à la fois sa simplicité. Beaucoup d'humilité. Beaucoup de talent. Elle a tellement su s'entourer des plus belles chansons, s'entourer des meilleurs compositeurs et auteurs. Et ça, c'est tout un art, quoi, d'arriver à... Parce qu'en fait, elle a fait 6 ans de scène quand elle était toute jeune. Elle a eu un énorme, énorme succès. Mais après, elle n'était pas faite pour la scène. Elle le disait elle-même. Et donc, elle a quand même une carrière longue de plusieurs décennies, mais en enregistrant les chansons, qu'elle soit écrivait elle au point de vue texte ou soit en participation avec, comme je viens de dire, des gens qui ont beaucoup de talent. Et ça, elle a su... Et elle a continué à être connue pendant des années pour dire qu'elle faisait, entre guillemets, que des disques.
Françoise Hardy, c'est l'élégance discrète, la sensibilité à fleur de peau, la lucidité douce, amère et l'amour des mots mis en musique. D'ailleurs, à propos de la musique, elle dit ceci. La musique est un langage universel qui unit les gens et transcende les frontières. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je pense que la musique, c'est absolument un langage universel. Absolument. Qui nous unit, qui nous fait aller au plus profond de nous-mêmes, qui comble nos émotions, qui nous amène des émotions. Et je pense que quand on est sensible à la musique, c'est une belle part de nous-mêmes qui vibre.
Est-il facile de chanter les chansons de Françoise Hardy ?
Alors, en fait, comment dire, moi, j'ai comme je suis très éloignée de la façon de chanter de Françoise Hardy, de son timbre de voix, de ça, je n'ai eu aucun problème à... Mon but, ce n'était pas du tout de faire du copier-coller, alors surtout pas, et donc de les interpréter à ma façon. Donc, paraît-il, d'après les gens, c'est quelque chose, ce spectacle plaît beaucoup. Et en plus, ce n'est pas qu'une suite de chansons. On découvre quand même aussi, comme je vous ai dit, un peu l'univers de Françoise Hardy, puisque je dialogue avec elle, etc. Mais donc, interpréter ces chansons, moi, c'est les textes qui me poussent énormément, qui me font vibrer, qui me font que je vais chanter une chanson... au plus profond pour être au plus vrai et pour être au plus profond de moi-même, et c'est ce qui touche, paraît-il, les gens.
Vous êtes accompagné pour ce spectacle hommage par 2 complices, Pascal Rinaldi et Bernard Amaudru. Comment s'est établie la complicité entre vous trois autour des textes de Françoise Hardy ?
Oui, alors je suis accompagnée, comme vous dites, de Pascal Rinaldi. Déjà, je vais parler de lui, qui est un ami depuis, mon Dieu, tellement, tellement d'années. On est vraiment, je pense, des potes dans la musique très proches. On a fait beaucoup, beaucoup de choses depuis tout jeune. Et j'aime bien travailler avec Pascal parce que, on se ressemble quand même pas mal. Et donc, il m'a beaucoup aidé à justement mettre techniquement en place tout ce qui était ce qu'on entend dans mon spectacle de voix de Françoise Hardy, etc. Et donc, j'adore jouer avec des gens. J'ai toujours eu la chance de jouer avec des gens avec qui je m'entendais énormément bien. Et en fait, il faut ça. J'ai besoin de ça pour me sentir portée et pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, avec Pascal, c'est vraiment un ami de mon Dieu, je ne sais pas combien, de décennies. Et le sonorisateur, alors Bernard Amaudru, qui vient de Lausanne, j'ai aussi, depuis toute jeune, fait des choses avec lui, enregistré des disques. En fait, c'est un superbe ingénieur de Suisse romande, tellement demandé. Il est très, très, très occupé, très connu. Et moi, quand je peux, entre guillemets, me permettre de demander à Bernie de venir, je me sens mais complètement à l'aise et aucun souci de me dire « mon Dieu, comment ça va sonner ?» etc. Donc c'est vraiment une liberté et un bel atout. Donc je suis très très heureuse de faire ces deux soirs au Crochetant qui sont quasi remplis maintenant, hein, avec ces deux personnes. Et dans la vie et dans les spectacles comme dans la vie, hein, on est l'union, on va dire, fait la force. Et en fait, je pense qu'on s'est bien trouvé.
Et pour la mise en scène, à qui avez-vous fait appel ?
Et pour la mise en scène, moi j'ai travaillé avec Thierry Romanens, qui est en fait aussi un ami de longue date, qui a déjà mis d'autres spectacles, hein, en scène. Et j'aime beaucoup travailler avec lui, parce que je me sens très proche de lui, ça c'est une chose. Et pour le spectacle de Chère Françoise Hardy, j'avais en fait quasiment tout imaginé, mais j'avais vraiment besoin de son œil extérieur qui est... en fait, comme une baguette magique qui est venue amener de la lumière, qui est venue épurer les choses avec son immense talent non seulement il est chanteur, il est comédien, mais c'est aussi quelqu'un qui a une faculté de bien faire vivre les choses sur scène, les faire vivre simplement. Et moi, j'avais vraiment besoin de ça. Et donc, on a fait un travail très fluide avec... c'est toujours... c'est toujours passionnant de faire de la scène, mais il y a toujours, comme on dit, il faut aller au charbon, c'est-à-dire il faut aller au meilleur de nous-mêmes. Et il y a toujours des moments, bien sûr, qui sont plus ou moins difficiles. Donc, quand on est avec quelqu'un de proche, avec un ami... pour moi, c'est franchement toujours beaucoup plus agréable et facile.
Merci beaucoup, Romaine, de nous avoir accordé quelques instants. On va vous laisser rejoindre vos complices car vous êtes en pleine répétition de ce spectacle. On en profite également pour annoncer que vous serez l'invité de Marie-Claude Cudry le 28 mai sur les mêmes ondes et à la même heure. On rappelle le titre de votre spectacle, Chère Françoise Hardy, que l'on peut venir découvrir mardi et mercredi prochain au Théâtre du Crochetant à 20h.
Le direct.
Magnifique teasing pour ces deux futurs concerts que je vous laisse aller découvrir. Certainement, vous trouverez sur le site du Crochetant un peu plus d'informations et on se réjouit déjà de cet échange avec Marie-Claude Cudry. Elvio, on est gentiment à la fin de notre parcours. Aujourd'hui, la Minute d'Elvio reprend vie, on pourrait dire. Hein. Je suis très heureux de vous retrouver.
Idem.
Alors, on va lancer le jingle et après, on vous laisse la main.
La Minute d'Elvio.
Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une magnifique balade printanière afin de faire revenir le beau et le chaud, parce que ce matin, c'était pas le cas. C'est au départ de Vernaya, en montant le chemin qui mène à Gueureau, pour les gens qui connaissent, c'est dans la région du Trien, que vous pourrez découvrir un splendide sentier fait de murs en pierre sèche avec un parterre de fleurs de saison. Et en y partant tôt le matin, il n'est pas rare d'y croiser un chamois. Vous pouvez également admirer la vue sur la plaine depuis le sommet du rocher. Arrivé à Gueureau, il y a son impressionnant pont ainsi que des yourtes où vous pouvez y séjourner. Depuis ce point, traversez le joli hameau par le sentier pour arriver sur une route forestière fermée aux véhicules, puis marcher 1,5 km environ. De là, descendez par la droite pour traverser une magnifique forêt. Profitez-en pour faire une cueillette d'ail et d'ours et au détour d'un frêne d'y trouver quelques morilles. Mais chut, je ne vous ai rien dit. Continuez au bord du Trien, suivez le panneau Salvant et découvrez un décor digne du Seigneur des Anneaux pour les initiés. Plus qu'à traverser la passerelle et de monter sur Salvant justement. Avec quelques belles surprises en chemin, je vous le garantis. Sorti de la forêt et arrivé au sommet, vous pouvez soit continuer à monter jusqu'au zoo des Maricottes pour une visite, ou pour les plus téméraires, redescendre jusqu'à Vernaya par la route de la Diligence qui... au printemps, nous offre un beau spectacle avec ses cascades. Si vous choisissez le tour par Salvant, vous pouvez redescendre tout de suite la boucle. Elle fait 11 km et 560 m de dénivelé. Et celui par les Maricottes fait 14 km pour 730 m de dénivelé. Mais n'oubliez pas que vous avez également l'option du train. D'avance, je vous souhaite une belle randonnée.
Belle randonnée aussi qu'on a eue radiophoniquement avec vous, Elvio. Alors, vous nous avez parlé de printemps. C'est vrai qu'en été, il n'y a même pas, presque, je crois que c'est jour pour jour. Je crois que c'était vendredi. Hein. Souvent, on dit le 21 septembre, mais je crois que c'est selon le calendrier de l'équinoxe. C'était jeudi passé, le premier jour du printemps. Hein. Premier jour du printemps, d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, quand on s'est réveillé, je ne sais pas si vous, ici, en plaine, vous habitez en plaine, vous avez eu énormément de neige, mais en tout cas, Trois Torrents, Chenarlier, on avait 15 à 20 cm. Alors, le printemps, il est là, il n'est pas là. Et surtout, dans quelques jours, on a ce fameux changement d'heure. Été-hiver, hein. On change d'horaire de la nuit de samedi à dimanche. D'ailleurs, quelqu'un saurait me dire si c'est plus ou moins, plus 1, moins 1, Seb ? Alors non, alors je ne sais pas qui c'est.
C'est plus 1. Safia,
c'est plus 1. Pour quelle raison ?
Allez-y. Alors, on avance en avril et on recule en octobre. Recule.
Alors, répétez ça parce que je pense que tout le monde va être content d'avoir.
En avril, on avance d'une heure. Et on recule d'une heure parce qu'on est en octobre recul.
Eh ben, vous savez quoi ? Ça, je pense que je vais garder ça en mémoire. Bravo, Omar.
Alors, je viens de me réveiller. Là, je dormais sur la table. Et au fait, est-ce que je vais dormir plus ou moins ?
Ah, ça, c'est, alors, c'est l'œuf ou la poule qui a fait la poule ou alors, vous voulez nous lancer là-dedans dans une réflexion
Mais c'est une réflexion philosophique et j'aimerais bien avoir une réponse.
Alors, je ne sais pas si on l'aura, mais alors peut-être que Seb, il a peut-être une hypothèse.
Alors, plausible. Une hypothèse, ouais. Je pense que pour moi, on va dans le bon sens. J'ai l'impression de passer de l'heure... quand on passe à l'heure d'hiver, on arrive vers le mois de novembre, le soleil tombe. Là, on va plutôt vers la lumière, malgré la météo actuelle. Mais je pense qu'on va plutôt dans le bon sens, en fait, de se dire qu'on va vers les beaux jours, en fait, qui vont se rallonger, en fait.
Donc, je pourrais dormir 4 heures de plus.
Je ne sais pas si tu pourras dormir 4 heures de plus.
Alors 4 heures de plus, je ne sais pas, mais finalement tout est relatif, c'est propre à chacun. Mais avec Elvio, on a parlé de randonnée. Ça peut faire un lien aussi avec tout ce qu'on a discuté tout au long de notre émission, hein, parce qu'on a parlé d'anxiété, on a parlé de défocalisation, on a parlé de solidarité. Elvio, est-ce que c'est des randonnées que vous organisez finalement, vous allez vous balader tout seul ou vous êtes solidaire et des gens qui viennent avec vous ?
J'allais y venir, donc c'est vrai que là maintenant, d'ailleurs j'invite tous les gens qui sont intéressés à prendre contact avec moi ou vous pouvez me trouver au quartier culturel ici à Malévo. Oui, j'ai de plus en plus de gens qui viennent marcher avec moi les lundis, généralement. Et je fais des randonnées en fait adaptatives. J'ai une certaine aussi érudition dans tout ce qui est plantes, arbres, plantes comestibles, fleurs et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment, ça me tient à cœur de faire des randonnées didactiques. Et puis je voulais revenir à la solidarité aussi parce que c'est en marchant en groupe souvent aussi, on développe une certaine solidarité. Qui est un renforcement et une confiance entre les uns et les autres. Et il y a beaucoup d'échanges aussi, énormément d'échanges sur nos soucis, sur notre situation de vie et tout. Et ça me fait toujours plaisir d'animer ces randonnées-là. Donc.
Alors, je ne sais pas si autour de la table, il y en a qui ont l'habitude d'aller se balader pour calmer l'anxiété, calmer les frustrations ou pas. Je vois. Bonjour Charlie, ça fait plaisir, vous nous avez rejoint au milieu de d'émission. Pour vous, comment ça se passe pour... est-ce que vous vous baladez déjà ?
Oui, très souvent. Là, j'ai vraiment hâte des beaux jours. Pendant l'hiver, j'ai fait quand même quelques randonnées, mais bon, c'est plus compliqué. Mais j'aime bien faire les bis et puis j'aime bien découvrir des nouveaux trucs. J'ai découvert une source d'eau tiède, c'est magique. C'est dans une grotte et puis on peut se baigner. Il a beau faire moins 10 dehors, on est dedans et il fait chaud. C'est un endroit magique.
Alors, vous n'allez peut-être pas que le garder pour vous-même, parce qu'on a parlé de solidarité. on a tous envie d'en profiter de ces sources d'eau chaude. Où est-ce qu'elle se situe ?
C'est à la Cambiula, à Eremos.
La Cambiula,
oui. Eremos. Il y a des sources d'eau chaude à l'extérieur et à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, il faut tenir sur ses jambes pour y aller, parce que c'est boueux et glissant. Mais il faut se faufiler dans des petits rochers, mais c'est vachement sympathique. Et j'ai plein de petits coins comme ça, mais les autres, je les garde pour moi.
Si vous avez envie d'y aller, vous tapez la Campiula sur Internet et vous allez certainement trouver les passages secrets, Elvio.
Oui, et vous pouvez, pour y monter, passer par le magnifique site, l'Ermitage de Longeborn, par exemple, au passage. Et vous partez, en fait, vous parquez à Bramois. Et puis, il y a des sentiers qui mènent à la Combiula, justement, en dessous de V.
On est d'accord. Hein.
Voilà. En tout cas, de vous entendre parler, ça vous a mis, pour nos auditeurs qui ne vous voient pas, ça vous a donné le sourire, ça vous a donné un petit peu comme ça les yeux qui pétillent, ça fait plaisir. Omar.
Alors, j'aimerais savoir si c'est un peu ringard, mais d'aller se balader au bord du lac, ça fait toujours du bien ?
Bah, posez la question un petit peu.
Voilà, parce que moi, je ne peux pas beaucoup marcher à cause d'un problème physique, mais je me dis quand même, quand on est au bord du lac, même si c'est pour 500 mètres, voir l'eau, le soleil, les gens, ça comme ça, c'est agréable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Johanna.
Alors, moi, j'adore aussi, parce que bah, ma ville préférée, c'est Vevey, parce qu'il y a le bord du lac à côté. Et surtout, c'est très calme, et juste le bruit des vagues, Ça me fait vraiment... Ça m'apaise, ça me fait vraiment du bien.
Mais si vous devez vous promener et avoir le bruit des vagues, c'est qu'il doit y avoir du vent, c'est que parce que des vagues sur le lac de... J'allais dire le lac de Genève, le chauvin que je suis, le lac Léman, ça y est, tout le monde va m'en vouloir, mais le clapotis des vagues, alors.
Exactement. Même si c'est juste des petites vaguelettes, ça fait toujours du bien.
Oui, parce que moi, j'ai vu l'image de la vague qu'on a...
le tsunami.
Au tsunami, oui. Elvio.
Ah oui, je vous invite aussi à venir au Grand Jet. Il y a une curiosité assez exceptionnelle, c'est qu'il y a un jardin merveilleux qui est entretenu par un passionné. Et dans son jardin, il recycle tout ce que le lac lui amène. Et il a fait des sculptures, il a fait plein de choses. Et puis c'est didactique, il y a aussi le nom des fleurs et tout. Et c'est très, très agréable de se balader dans ce coin-là.
Oui, il y a de magnifiques sculptures en bois flotté qui sont juste extraordinaires. Safi, hein.
Au Grand Jet aussi, il y a un endroit, une exploration pour voir tous les oiseaux et toute la faune aux alentours à l'entrée des Grands Jets.
Alors, voyez si ça, c'est pas de la solidarité, que tout le monde puisse donner un petit endroit où on peut se ressourcer. Je ne sais pas ce que c'est. Rachel.
Moi, j'avais une question à Ilio.
Elvio. Quoique Ilio, ça pourrait être aussi sympa.
Voilà.
Ça pourrait être un nom de scène, oui. Ilio.
En fait, c'est dans le cadre uniquement de Malévo ou même quand on n'est plus hospitalisé, genre on peut te contacter et puis venir.
On peut se rencontrer. Enfin, moi, je suis encore ici pour quelques mois. Mais du coup, c'est du total bénévolat que je fais. Donc c'est vraiment... Et c'est, comme je dis, c'est toujours adaptatif et tout. Moi, j'ai aucun problème à donner... J'ai un numéro justement où je peux être joint. Donc j'ai une carte de visite que je peux vous transmettre pour ceux qui sont intéressés. Et voilà. Et on randonne dans le Valais, dans les préalpes fribourgeoises, sur le plateau... dans le Chablais, voilà, un peu partout. Donc, voilà, c'est volontiers. Quoi.
Alors, moi, j'ai Elvio en face de moi, il est tout bronzé. Et je pense que c'est la conséquence de faire des randonnées tout le temps. Et je crois que je suis un peu jaloux de son bronzage.
C'est tout à fait ça.
Alors, dernier mot de la fin pour Rachel.
Reste au soleil, tu synthétises la vitamine D. Oui, alors, c'est la vitamine de la bonne humeur.
C'est vrai, il suffit simplement que 10 minutes. Notre émission touche à sa fin. Pour accompagner ce que Elvio nous disait, qu'il n'y a pas besoin d'être hospitalisé pour aller faire les randonnées, pour tous ceux qui nous écoutent ou qui auront l'occasion de nous écouter, parce que peut-être qu'autour de la table, vous allez faire vivre ça auprès de vos proches, pour qu'ils écoutent l'émission, vous êtes tous invités à Pavillon Nomade à partager ce moment, comme on l'a fait cet après-midi. Pas besoin d'être hospitalisé, pas besoin d'avoir simplement juste l'envie de venir partager, de proposer un thème, de discuter. C'est tous les jeudis de 15h à 16h30. On a la première demi-heure de préparation. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos sites Instagram. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités et aux participants du jour. Un grand merci à Pascal Vigolo, à la technique et pour la conduite de l'interview. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On va se quitter finalement avec la chanson de Françoise Hardy, hein, pour faire un petit clin d'œil à Romaine, hein, que vous retrouverez le 31 mars et le 1er avril au théâtre de Crochetant. Il y a encore des places, allez-y, ça va être fantastique.
Je ne dirai pas tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive. Attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche, j'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la mort de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi.